pour comprendre la formation du prix des actifs financiers qui sont, on ne le rappellera jamais assez, de simples promesses de recevoir de la monnaie dans l'avenir, nous allons construire un cadre analytique le plus simple possible. Et au sein de ce cadre, nous allons spécifier deux modèles différents, engendrant des théories différentes de la dynamique des prix des actifs financiers. Nous le verrons, ces modèles diffèrent par le comportement des acteurs. Nous allons, pour simplifier, raisonner sur une seule classe d'actifs financiers, par exemple les actions des entreprises. Comment modéliser le comportement des investisseurs sur ce marché et la conséquence de ces comportements sur le mécanisme des prix. Précisons tout de suite que nous avons affaire ici à un marché supposé concurrentiel et parfait. Ce qui est en effet le cas, sauf exception, du marché des actions. Il existe en effet un très grand nombre de vendeurs et d'acheteurs à tout moment. Tous ont la même information. Sinon, c'est un délit d'initié sévèrement puni, et aucun ne peut manipuler le prix de marché. Tous ces acteurs reçoivent à chaque instant un flux d'informations. Ce flux comprend, d'une part, le prix passé des actifs, ceux qui les intéressent. D'autre part, des informations sur toute une série d'événements susceptibles d'influencer les résultats futurs et donc le prix des actions des entreprises. Parmi ces événements, naturellement, la publication par l'entreprise elle-même de ses comptes et de divers avis sur sa situation et ses intentions. Mais également la publication de quantités de chiffres, d'indices, de sondages d'opinion qui reflètent l'évolution de la situation autour des entreprises. Et enfin, troisième catégorie d'informations, des avis, des conseils, des pronostics d'analystes, les analystes les plus fameux, on les appelle les gourous de Wall Street, des pronostics et même l'ensemble de ces pronostics des analystes forment ce qu'on appelle un consensus de marché. À un moment donné, on peut dire que le consensus de marché est que telle action devrait augmenter de 3% dans l'année qui vient. Voilà. Donc, les acteurs reçoivent un flux d'informations permanent, une très grande quantité de données. Bon. Chaque acteur traite ces informations à l'aide de ce que j'appelle un modèle d'interprétation. Et ce modèle d'interprétation transforme le flux d'informations continue en réévaluation continue du couple rendement-risque de toutes les actions auxquelles s'intéresse l'investisseur. Et ces réévaluations permanentes sont immédiatement traduites en décision par l'investisseur, décision de vendre une action, de l'acheter ou au contraire de la conserver. L'ensemble des décisions de ce type de tous les acteurs de marché provoque une variation des prix qui, ce qui boucle le système, vient s'ajouter aux informations, au flux permanent d'informations. Voilà le cadre analytique très simple des acteurs qui reçoivent un flux d'informations, qui le traitent avec un modèle d'interprétation qui leur est propre et qui traduisent ce flux d'informations en actions, ventes, achats ou maintien sur les marchés qui fait fluctuer les prix. Je fais deux hypothèses supplémentaires communes aux deux modèles. La première, on l'a dit, est que le marché est parfait. Il n'y a pas d'asymétrie d'information, il n'y a pas de possibilité de délit d'initié. Tous les investisseurs reçoivent exactement et au même moment le même flux d'information. La seconde hypothèse, c'est que le flux d'information a un caractère aléatoire. C'est un bruit blanc. Techniquement, on le représentera par des distributions de probabilité de ce qui se passe qui sont des gaussiennes. Alors donc, sur cette base, nous allons construire, vous allez voir, deux modèles très différents quant à ce qu'ils théorisent de l'évolution du prix des actifs financiers. Le premier modèle est celui des marchés efficients. Il a été développé dans les années 60, principalement par des chercheurs américains, et il suppose fondamentalement que le modèle d'interprétation des acteurs est, un, toujours le même, et deux, indépendant des autres acteurs, par conséquent, ou si vous préférez, stable dans le temps. Dans ces conditions, chaque acteur ayant son modèle d'interprétation stable dans le temps, toute l'information existante est instantanément traduite dans les prix. Et les prix ne fluctuent que parce qu'arrivent en permanence des informations nouvelles de caractère aléatoire et, ce point est très important, non anticipées. Parce que ce qui fait varier le prix, quand le consensus de marché est que le résultat que va annoncer cette entreprise va être de temps, ce qui justifie absolument son prix actuel de temps, ça c'est le consensus de marché, le prix ne va bouger que si la réalité de ce que annonce l'entreprise est différente de ce à quoi s'attend le consensus de marché. Ce flux d'informations aléatoire va se traduire automatiquement dans un flux aléatoire des prix. C'est-à-dire les prix varient également selon un bruit blanc. Bruit blanc à l'entrée dans le flux d'information, stabilité des modèles d'interprétation donne bruit blanc à la sortie. Sur la base de ce modèle de marché efficient, en choisissant une gaussienne comme distribution de probabilité des prix aléatoires, on construit des mathématiques financières qui permettent, par exemple, avec la formule de Black et Scholes, d'évaluer le prix des options, un des instruments dérivés dont nous parlions au chapitre précédent. Le second modèle, construit dans le même cadre analytique, fait des hypothèses différentes sur le comportement des acteurs. Premièrement, il suppose que les modèles d'interprétation des acteurs, loin d'être stables dans le temps, peuvent varier sous l'effet d'informations qui frappent particulièrement les acteurs et qui modifient leur vision dominante de l'avenir. Ils étaient, disons, globalement optimistes et quelque chose les fait basculer dans le pessimisme. Et deuxièmement, les modèles d'interprétation des acteurs sont mimétiques. Car, comme le disait très bien Keynes, ce qui est important sur les marchés financiers n'est pas d'agir comme vous le pensez, mais d'agir comme vous pensez que les autres pensent. Et naturellement, c'est vrai des autres aussi. Si l'on ajoute à ce mimétisme et à cette instabilité des modèles d'interprétation des acteurs, un autre trait de comportement qui rend les actions des investisseurs auto-validantes, par exemple, une majorité d'acteurs pensent qu'une action va monter. Ils l'achètent. Et s'ils l'achètent, effectivement, elle monte. D'autres se convainquent par conséquent qu'il faut l'acheter, l'achètent et elle continue à monter. Donc, c'est ce qu'on appelle une anticipation auto-validante. Une anticipation, elle va monter, partagée par suffisamment d'acteurs, fait effectivement monter l'action. La conséquence de l'introduction dans le cadre analytique de ces comportements mimétique et auto-validant est que, avec ce modèle, il y a d'une certaine manière deux régimes de prix pour les actifs financiers. En période que l'on qualifiera de normale, c'est-à-dire quand les modèles d'interprétation sont stables, les prix fluctuent en effet, comme le dit la théorie des marchés efficients, de manière aléatoire autour de leur prix d'équilibre sous l'effet des événements eux-mêmes aléatoires qui ne cessent de se produire. Cependant, il en est rarement ainsi. La plupart du temps, alimentés par une politique monétaire d'argent facile, tant qu'il n'y a pas inflation du prix des biens et services, les investisseurs peuvent emprunter pour acheter des actifs et donc faire jouer ce qu'on a vu être un effet de levier. Ceci initie une hausse du prix de certains actifs. Étant donné le caractère mimétique et auto-validant des comportements, cette hausse s'entretient jusqu'au moment où un certain nombre d'acteurs, plus attentifs que les autres au flux d'informations, s'aperçoivent que la hausse du prix des actions correspond à des promesses de revenus futurs qu'elles ne seront, selon toute probabilité, jamais capables de tenir. Dans mon cadre analytique, je dis que s'est formé et a enflé, alimenté par une politique monétaire laxiste, un mistigri. Le mistigri, c'est dans un jeu de cartes européen, une carte où il y a un mistigri, un chat botté, qui est la mauvaise carte. On se la passe pendant le jeu, celui qui a le mistigri à la fin a perdu. Le mistigri, c'est le volume des promesses qui, compte tenu du prix atteint par les actifs financiers, ne seront, selon toute probabilité, jamais tenus. Mais naturellement, personne ne connaît le volume du mistigri. Pour connaître le volume du mistigri, il faudrait calculer la vraie valeur des actions. Ce que personne ne peut faire, puisque la vraie valeur devrait représenter ce qui va se passer, mais que personne ne connaît exactement. Mais par contre, si le prix des actifs a augmenté continuellement depuis des mois et des mois, grâce à une politique d'argent facile, on peut supposer, on peut même être sûr, que le mistigri gonfle. On peut être sûr que certains s'en apercevront avant les autres et en vendant, provoqueront la piqûre dans le ballon qui va faire se dégonfler le mistigri et qui va provoquer le crack. Selon ce modèle, la finance de marché est par conséquent intrinsèquement instable. Elle présente une succession de bulles mimétiques suivies de cracks. C'est ainsi que les tenants de cette théorie, dont je fais partie, ont pu prévoir la crise de 2001 et la crise de 2008. Non pas certes avec précision, mais ils ont pu affirmer le caractère inévitable de ce genre de crise. Et pour certains, ils ont même pu dire qu'elle était imminente, tant le mistigri avait déjà gonflé.